Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 33, Daf Lamed Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Hezid bemeila bemita, que quelqu'un qui profane exprès quelque chose de saint est passible de peine de mort par le tribunal céleste. Rebbi, ça c'est l'opinion de Rebbi, d'Etania, car nous avons enseigné dans une bretta. Hezid bemeila, si quelqu'un profanait quelque chose de saint exprès, Rebbi Omer bemita, d'après Rebbi, on est passible d'une peine de mort par le tribunal céleste, les rachamim ont rime, les sages disent, bazara, ce n'est qu'un interdit. Et maïta amad Rebbi, quelle est la raison de Rebbi? Amar Rabbi Abaou a dit, gamar chet chet mitrouma. Il apprend par Xera Shava, il écrit le mot chet, faute, une faute, à propos de terouma, et il écrit le mot chet, une faute, à propos de Meïla, à propos de quelqu'un qui a profané quelque chose de saint. Ma terouma abemita, et donc de même que lorsqu'on consomme de la terouma exprès, on est passible de peine de mort par le tribunal céleste. Bien sûr, ici nous parlons d'un Israël qui consomme de la terouma. Un Kohen, il a le droit de la manger. Un Israël n'a pas le droit de la manger. Et donc il est passible de peine de mort par le tribunal céleste. Af meila bemita. De même, lorsque l'on profane quelque chose de saint, chose qui est donc interdite, on sera passible de peine de mort par le tribunal céleste. Umina. Et donc, de cet enseignement, nous pouvons apprendre aussi autre chose. Ma terouma bekazait. De même que la quantité minimum de terouma que l'on doit consommer pour être passible de peine de mort par le tribunal céleste est une quantité de 1 kazait, comme une olive. Afmeila bekazait. De même, lorsque l'on profane et qu'on consomme quelque chose de saint, pour être passible de peine de mort par le tribunal céleste, la quantité minimum doit être une quantité de 1 kazait. Et donc, comment avons-nous pu dire plus haut que Meïla, l'interdit de profaner, est plus grave que les autres interdits, car l'on est passible de peine de mort par le tribunal céleste lorsqu'on en consomme même moins qu'un kazaït. D'après Rebbi, et c'est Rebbi qui pense que l'on est passible de peine de mort par le tribunal céleste dans un cas pareil, il faut une quantité minimale d'un kazaït. Et donc, nous refutons la façon d'expliquer la braïta vue plus haut. On m'a dit qu'il fallait Rav Papa, et Rav Papa a posé une question sur cette question. Et donc, lui, il pense qu'on peut, oui, expliquer, comme nous l'avons vu plus haut. Mimai de Rebbi Kerabanan Sirale, qui nous dit que Rebbi pense comme les sages? Dilma ke Abba Shaoul Sirale, peut-être qu'il pense comme Abba Shaoul. De Amar qui lui a dit, Yesh Bashave Pruta, si dans la quantité de terouma qu'il a mangé, ça a une valeur d'une pruta, Afal Gav de Led Bakazait, même si ça a une quantité moins qu'un kazait, il est passible de peine de mort par le tribunal céleste. Et donc, nous pouvons expliquer plus haut que l'interdit de Meïla est plus grave que les autres interdits, car on est passible de peine de mort par le tribunal céleste, même quand on en consomme moins d'un kazaït, si cette quantité a une valeur d'une pruta. Et là-dessus, la Gemara demande, vers Rav Papa, et pourtant Rav Papa, Houdé Amar de Abba Shaoul Tartabaye. Et c'est lui qui a dit que d'après Abba Shaoul, il y a besoin des deux conditions. C'est-à-dire, première condition, qu'il faut que ce qu'il consomme est une quantité de 1 kazaït. Et deuxième condition, que ce qu'il consomme est une valeur d'une pruta. Et là, nous voyons que Rav Papa, lui, dit et veut expliquer la braïta, qu'elle suit l'opinion de Abba Shaoul, en disant qu'une seule condition, qu'il est passible de peine de mort par le tribunal céleste, si ce qu'il a mangé a une valeur d'une pruta, même si c'est moins qu'un kazaït. Et la Shmamina, et donc de là, ça sous-entend, Hadarbe, que Rav Papa est revenu sur ses dires. Maintenant, la Gemara va ramener une autre façon d'expliquer la Braïta que nous avons vue plus haut, et une autre raison pour laquelle Meïla est plus grave que les autres commandements. Et auparavant, il faut expliquer qu'il existe plusieurs façons de transgresser un commandement sans faire exprès. Il y a premièrement, savoir ce que l'on fait, le faire exprès, mais en ne sachant pas que cette chose est interdite. Par exemple, quelqu'un qui a un morceau de viande devant lui, il a l'intention de le consommer, il le prend et il le consomme, mais il ne savait pas que cette viande était interdite. Ça, dans un cas pareil, d'après tout le monde, on est passible de sacrifice. Mais il existe un autre cas où l'on sera exempt de sacrifice. Ce cas s'appelle « mit'asek », être occupé à autre chose. Et il existe plusieurs cas de « mit'asek ». Le premier cas sur lequel nous allons parler maintenant est le cas de quelqu'un qui s'est trompé sur les données qu'il avait. Par exemple, il y a un interdit de couper quelque chose qui est raccroché au sol durant Shabbat. Et lui, donc, a vu une tomate et il pensait que la branche sur laquelle cette tomate était accrochée, cette branche, elle, n'était pas accrochée au sol. Donc, en fait, on a le droit de couper la tomate. Il a coupé la tomate et il s'avère que cette branche était quand même raccrochée au sol. Donc, en fait, lui, dans ce cas-là, il a accompli ce qu'il voulait faire. Lui, il avait l'intention de couper et il a coupé. Mais il avait une erreur dans les données. Il pensait que la branche n'était pas raccrochée au sol et il s'avère que la branche était raccrochée au sol. Dans un cas pareil, on est exempt de sacrifice. Le deuxième cas que la Gemara va mentionner plus loin, c'est dans le cas où il n'a même pas accompli ce qu'il avait l'intention de faire, mais il a accompli autre chose. Par exemple, il y avait une tomate par terre raccrochée au sol. Lui pensait que cette tomate n'était même pas raccrochée au sol. Elle était juste sur une branche et cette branche n'était même pas raccrochée au sol. Et il a voulu élever cette tomate, par exemple, afin de la regarder. Et en élevant cette tomate, il a arraché du parterre. Parce que, en fait, la branche était, oui, raccrochée au sol. Et donc, lorsqu'il a élevé la tomate, il a arraché la branche et la tomate du sol. Donc, en fait, lui, ce qu'il avait l'intention, c'était d'élever la tomate. Et à la fin, il a arraché. Donc, en fait, ici, ce n'est pas qu'il a accompli ce qu'il voulait accomplir, mais qu'il avait une erreur dans les données. Il n'a même pas accompli ce qu'il voulait accomplir. Il a fait complètement autre chose. Alors, dans un cas pareil, il sera aussi exempt de sacrifice. Et alors, maintenant, la Gemara va nous parler du premier cas. Et va nous dire qu'il y a une différence dans toutes les autres mitzvot et Meïla. Mar bere de Ravina. Mar bere de le fils de Ravina, Amar a dit. Harikama, c'est ainsi qu'il faut expliquer. Loïm Amar de Bichar mitzvot, tu ne peux comparer Meïla à l'interdit de profaner aux autres commandements. Chez lo asa bahen, chez en mitkaven ke mitkaven. Car dans les autres commandements, on n'a pas considéré quelqu'un qui avait une erreur dans les données comme la personne qui n'avait pas d'erreur dans les données. Quelqu'un qui n'avait pas d'erreur dans les données, il ne savait pas que cette chose était interdite et passible de sacrifice. Mais quelqu'un qui avait une erreur dans les données, alors dans un cas pareil, il est exempt de sacrifice. Comment cela? Shem nitkaven lachtoch et atalush vechatach et amechubar, car s'il avait l'intention de couper, par exemple, durant Shabbat, une tomate en pensant que cette tomate avait déjà été, la branche de cette tomate a déjà été arrachée du sol. Et donc cela est permis. Vechatach et amechubar. Et lorsqu'il a coupé cette tomate, il s'avère que la branche était encore raccrochée au sol. Et donc, il a transgressé un interdit. Alors, dans un cas pareil, chez Pato, il est exempt de sacrifice. Tomar Bemila, par contre, dans l'interdit de profanation, chez Imlit quand même, l'Eitramem Begizé Choulin, s'il avait l'intention de se réchauffer avec des pelotes de laine en pensant qu'elles étaient profanes, Venitramem Begizé Ola, et après, il s'est réchauffé avec des pelotes de laine qui proviennent d'un sacrifice holocauste. Chez Mal, il a profané ses pelotes de laine, même s'il n'avait que une erreur sur les données. Il pensait que c'était profane, et il s'avère que ça provenait d'un sacrifice holocauste. Donc, en fait, c'est une erreur dans les données. Et donc, dans un cas pareil, dans tous les autres interdits, on est exempt de sacrifice. Par contre, à propos de Meïla, on est passible de sacrifice. Et donc, puisqu'on est passible de sacrifice, j'aurais pu penser que même lorsqu'on l'a fait exprès, on est passible de sacrifice. C'est pour cela que le verset vient nous dire que seulement celui qui a transgressé sans faire exprès. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, et Rav Nachman bar Yitzhak nous dit une autre façon d'expliquer la braïta. Et lui, en fait, va nous parler de la deuxième façon de mitasek, de quelqu'un qui a occupé autre chose. Harik Amar, c'est ainsi qu'il faut dire. Loi mamart bishar mitzvot, tu ne peux comparer l'interdit de profanation aux autres commandements. Sheken lo mitrayev ba'en she'en mitasek ke mitasek. Nous ne rendons pas passible de sacrifice quelqu'un qui a transgressé le commandement en étant occupé à autre chose, de même que quelqu'un qui a transgressé le commandement sans être occupé à autre chose. Et la Gemara s'explique immédiatement. Shim nitkaven lehagbia et atalush vechatach et amechubar. Car s'il avait l'intention d'élever quelque chose qui était déjà décroché du sol. Comme par exemple l'exemple que nous avons amené plus haut. Quelqu'un qui pense élever une tomate en pensant que cette tomate a déjà été arrachée du sol. Et lorsqu'il élève, il s'avère que cette tomate est encore accrochée au sol. Vechatach et amechubar. Et donc il a arraché du sol lorsqu'elle était encore accrochée. Donc en fait, il est occupé à complètement autre chose. Alors dans un cas pareil, chez Pato, il est exempt. Car il n'a même pas accompli ce qu'il voulait accomplir. Tomar Bemeila, par contre, à propos de la profanation, de l'interdit de profanation, Shi Moshit Yado Lekli, s'il a tendu sa main vers un ustensile dans lequel il y avait plusieurs choses. Litol chefesh, pour y prendre un objet. Vesach yado bashemen shel kodesh. Et au passage, il s'est enduit la main avec de l'huile sainte. Shemal, il a profané cette huile. Mais il n'avait pas l'intention du tout de s'enduire d'huile. Il avait juste l'intention de prendre un objet. Étant donné que de toute façon, il s'est enduit d'huile, il a profané. Et donc nous voyons dans un cas qu'il n'a même pas accompli ce qu'il voulait accomplir. Lui, il voulait prendre un objet et en fait, il s'est enduit d'huile. Malgré tout, nous disons qu'il a profané, qu'il est passible de sacrifice. Donc j'aurais pu penser que, étant donné que l'interdit de profanation est sur ce point-là plus grave que les autres interdits, alors j'aurais pu penser que même lorsqu'on le transgresse exprès, on est passible de sacrifice. C'est pour cela qu'il y a un verset qui nous dit que seulement lorsqu'on le transgresse sans faire exprès. Maintenant, la Gemara revient sur ce que nous avons étudié plus haut. Nous avons vu qu'il y a une discussion entre les Tanaïm à propos de quelqu'un qui a consommé de la terouma durant la fête de Pessah, est-ce qu'il doit la rembourser ou pas? Et là-dessus, la Gemara nous a dit que c'est seulement dans un cas où cette terouma a été prélevée avant la fête de Pessah et elle est devenue chametz durant la fête de Pessah. Mais si durant la fête de Pessah, on a prélevé de la terouma chametz, le prélèvement n'est pas valable. Et alors la Gemara revient là-dessus. Amar, le maître a dit, « Bamed varim amriv, sur quoi les choses ont été dites, « Bemafrish terouma vechmita » pour quelqu'un qui a prélevé de la terouma avant la fête de Pessah, et elle est devenue chametz durant la fête de Pessah. Aval ifrish chametz terouma, mais s'il a prélevé du chametz en tant que terouma durant la fête de Pessah, divrei akol en akdosha. D'après tout le monde, ce prélèvement n'est pas valable, et donc ce qu'il a prélevé n'est pas saint. On me demande, minan emile, d'où l'apprenons-nous? Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Rav Nachman Bar Yitzchak a dit, nous l'apprenons du verset, Amar Kra, car le verset a dit, titenlo, à propos de la terouma, il est dit, titenlo, tu devras lui donner au Kohen. Et de là, nous apprenons que tu lui donneras à lui au Kohen, velo leoro, et pas à sa lumière. C'est-à-dire qu'on devra lui donner au Kohen pour ses besoins personnels, mais on ne devra pas lui donner pour qu'il l'utilise, par exemple, en tant que combustible pour s'éclairer. Alors, Gemara demande, Métiv Ravuna, Bere de Rav Yoshua, Ravuna, le fils de Rav Yoshua, demande, en tormin minatemea la teora, on ne peut prélever de quelque chose d'impur pour quelque chose de pur. Par exemple, si on a des fruits sur lesquels on doit prélever la terouma, alors on n'a pas le droit de prendre des fruits impurs et avec ces fruits, prélever la terouma pour rendre quitte tout le reste du tas. Ve'im taram, et s'il a prélevé, beshogeg, sans faire exprès, c'est-à-dire sans savoir que ces fruits qu'il prélève en tant que terouma sont impurs, terouma to terouma, sa terouma est valable et est acceptée. Agama demande, Vehamai, pourquoi, l'imalo velo leoro? Pourquoi ne disons-nous pas qu'il faut lui donner au Kohen, à lui au Kohen, pour ses propres besoins, velo leoro, et pas pour sa lumière? C'est-à-dire qu'on doit lui donner quelque chose qu'il peut manger, mais qu'il peut, pas quelque chose qu'il sera obligé d'utiliser en tant que combustible. Or, de la terouma impure, un Kohen ne peut la manger, et donc il sera obligé de l'utiliser en tant que combustible. Alors pourquoi disons-nous que la terouma est valable? Agama répond, Lokasha, ce n'est pas une question, ça ce n'est pas une question. Hatam, là-bas, à propos de la terouma impure, haïta loshat akosher. Cette terouma, ces fruits que l'on a prélevés, à un certain moment, avant qu'ils deviennent impurs, ils étaient aptes à devenir terouma. Et puisqu'ils étaient aptes à devenir terouma, même lorsque après ils sont devenus impurs, nous pouvons les prélever. C'est sûr que, a priori, nous disons de ne pas prélever de cette façon, mais s'il a fait sans faire exprès, alors, sa terouma est valable. Acha, ici, par contre, à propos du chametz durant l'affaire de Pessah, Lo haïta lo shata kosher. Ce chametz qu'on a voulu prélever pour le reste de la récolte n'a jamais été apte à devenir terouma, car étant donné qu'il était toujours chametz durant la fête de Pessah, et donc, il a toujours été inapte à la consommation, et donc, étant donné qu'il a toujours été inapte à la consommation, nous n'avons pas le droit de le donner au Kohen. Et la Gemara s'explique immédiatement, Vedelo haïta lo shata kosher echidame. Et du chametz qui n'a jamais été apte à la consommation, comment pouvons-nous trouver un cas pareil? Kegon d'Achmid Mechouba, comme par exemple dans le cas où il s'est devenu chametz déjà lorsque le blé était en épi. Et donc, dès que l'on a récolté ce blé, et que on est devenu passible de prélever la terouma, c'était déjà chametz. Et donc, puisque c'était déjà chametz, on ne peut le prélever durant la fête de Pessah et le donner au Kohen. Alors la Gemara va prendre là, aval echmitz betalouch, achinami de ketcha. Alors, mais si la Gemara demande, qu'en est-il si les épis de blé, eux, n'étaient pas chametz. Et après que l'on a récolté les épis, c'est devenu chametz. Alors qu'en est-il? Est-ce que dans un cas pareil, étant donné qu'à une certaine époque, ils étaient aptes, ces épis de blé, avant qu'ils deviennent chametz, ils étaient aptes à être terouma, même durant la fête de Pessah, alors allons-nous dire que même si, après qu'ils sont devenus chametz, nous pouvons les prélever durant la fête de Pessah et les donner en tant que terouma au Kohen? Azamari lui a répondu, oui, en effet. Et là-dessus, il lui a ramené un verset de Daniel en tant que proverbe, qui dit, Bigzerat irin pitgama, tel est l'arrêt prononcé par la volonté des anges, Omemar Kadishin chez Elta, et la résolution décrétée par les saints. C'est-à-dire que même si cette chose-là n'a pas d'explication, c'est comme ça que l'on décrète. Vechel Morin Bebe Midrasha, et de même on enseigne dans la maison d'études, Kevati, suivant mon opinion. C'est-à-dire qu'il y a une différence dans le cas, est-ce que ces épis sont devenus Hametz déjà lorsqu'ils étaient encore en épis, ou est-ce qu'ils sont devenus chametz après qu'ils ont été récoltés? S'ils sont devenus chametz après qu'ils ont été récoltés, on peut les prélever en tant que terouma durant la fête de Pessah. Par contre, si c'est devenu chametz lorsque c'était encore en épis, on ne peut prélever ce chametz en tant que terouma durant la fête de Pessah. Kiata Ravuna Bered de Rav Yoshua. Lorsque Ravuna, le fils de Rav Yoshua, est venu, il a dit, il a une autre façon d'apprendre que l'on n'a pas le droit de prélever du chametz en tant que terouma durant la fête de Pessah.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Daf, Lamed Gimel, Amud Bet. Amar Kra, car le verset a dit, Réchit, à propos de la terouma, il est dit Réchit. Et la traduction littérale de Réchit, c'est le début. Mais c'est-à-dire, en fait, ici, l'intention du verset est que la terouma, ça doit être une première partie que l'on donne au Kohen. Or, si l'on prend une première partie, le début de la récolte, et qu'on le donne au Kohen, ça veut dire qu'il y a une suite. Et donc, de là, nous apprenons chez Shiraea Nikarim l'Israël, que les restes de ce que l'on a prélevé doivent être aptes à être consommés par Israël. Et donc, Yatsazo, ça vient sur ce cas-là de quelqu'un qui prélève du Hametz, Shein Shiraea Nikarim, car c'est, le reste la traduction littérale de Nikarim, c'est reconnaissable. Mais en fait, si l'intention est que apte à être utilisé par un Israël. Or, du Hametz durant la fête de Pessah n'est pas apte à être utilisé par un Israël. Et donc, puisque le reste de cette terouma, de ce qui a été prélevé, n'est pas apte à être utilisé, donc même la terouma n'est pas valable. Yetiv Ravacha Rabavia, Kame de Rafriza. Ravacha, le fils de Rabavia, était assis devant Rafriza. Veyati Vama, Mishvet de Rabbi Yochanan, était assis, il disait au nom de Rabbi Yochanan. Anavim Shenitmeu, des raisins qui sont devenus impurs. Dochan Pachot Mikabetza. On a le droit de les presser par quantité de moins qu'un Kabetza, qui est comme la grosseur d'un œuf. Veyanam kasher lensachim, et le vin que l'on presse en faisant ces raisins est apte à être utilisé pour les libations sur l'autel. C'est-à-dire que ce vin n'est pas impur. Ce vin est pur, bien qu'il provient de raisins qui eux sont impurs. Ragma demande alma kasava. Cela veut dire qu'il pense mashkin mifkad kide, que des liquides dans les fruits ne font pas partie intégrale du fruit, mais ils sont juste enfermés dans le fruit, de même que par exemple, il y a une boisson qui est dans une bouteille, de même ces liquides sont enfermés dans le fruit comme ils sont enfermés dans un ustensile. Et donc en fait, lorsque ces raisins sont devenus impurs, eux-mêmes ne sont pas devenus impurs. Et les emat kamitame, quand c'est qu'ils vont devenir impurs, les chissachit leo, lorsque l'on va presser les raisins, ils vont devenir impurs car ils vont toucher les raisins. Lorsque le jus du raisin va sortir, il va toucher le raisin, et donc, puisqu'il va toucher le raisin, il va devenir impur. Or, le chissachit lehu, lorsqu'il va les presser, ces raisins, leite le shiure, il n'y aura pas la quantité minimale de raisins pour rendre impur. Car il y a une règle qui nous dit que toute nourriture peut devenir impure en quantité minime, mais pour faire passer l'impureté, il faut qu'il y ait une quantité minimale de un kabetza, comme un œuf. Or, puisque l'on presse ce raisin qui est d'une quantité moins que un kabetza, moins qu'une quantité comme un œuf. Donc en fait, lorsque le jus il va sortir, il va toucher des raisins qui sont en quantité moins que Kabeza. Donc en fait, les raisins ne peuvent pas rendre impur le jus qui va sortir de ces raisins. Ragma demande, Yachi, si c'est ainsi, Kabeza Nami. Même si ces raisins sont en quantité de un Kabeza exact, on aurait le droit de les presser et le vin qui en sortira sera pur. D'Atnan, car nous avons signé dans Mishnah, Tmemet Shesachat Zetim Vanavim. Quelqu'un qui est impur, car il a touché un mort, et donc lui-même est devenu impur, qui a pressé des olives ou des raisins, Kabeza, qui sont en quantité de un Kabeza, mais Kouvenet exact. Alors, Théorim, l'huile ou le vin qui sort de ces olives ou de ces raisins est pur, car lorsqu'il les presse, automatiquement un peu d'huile ou un peu de vin sort. Et donc, il n'y a plus la quantité d'un cabeza, car il y avait une quantité ici de cabeza exacte. Et donc, dès que il est presse, il n'y a plus cette quantité. Et donc, puisqu'il n'y a plus cette quantité, alors, les raisins ne peuvent rendre impur le liquide, c'est-à-dire le jus de raisin qui en sort. Alors, pourquoi nous avons enseigné qu'il n'a le droit de presser qu'en quantité de moins qu'un cabeza? Apparemment, il aurait le droit de presser même une quantité d'un cabeza exacte. Alors, la Gemara répond, Atam, là-bas, dans la Mishnah qui nous parle d'un cabeza exact, Dei Avad. Nous parlons d'un cas, s'il a pressé. Alors, s'il a pressé, ce n'est pas impur. Ah, mais ici, les quatre là, nous parlons de a priori. Est-ce qu'il a le droit de presser ou pas? Nous disons qu'a priori, il n'a pas le droit de presser. Pourquoi? Xera dilma telemibad yotermi cabeza. De peur qu'il n'en vienne à presser par quantité de plus qu'un cabeza. Or, s'il presse une quantité de plus d'un cabeza, le jus de raisin qui va couler de ces raisins va immédiatement devenir impur en touchant les raisins. Amar le Rafriza. Alors, Rafriza lui a posé la question à Rav Acha bar Ravavia, qui a dit que, en fait, les liquides étaient juste enfermés dans les raisins, mais ils ne faisaient pas partie intégrale des raisins. Il lui a dit, Man Seit Lach ou Rabbi Yochanan Rabar. Qui écoute ce que tu dis? Est-ce que Rabbi Yochanan, ton maître, te dit, Vechitouma Shebaen Lechanalcha, l'impureté qu'il y avait dans ces raisins, où est-elle partie? Étant donné que ces liquides étaient dans des raisins qui eux-mêmes étaient impurs, donc les liquides eux-mêmes étaient impurs, et donc où est partie cette impureté? Et donc la Gemara va prendre de là, Alma Kassavar, donc de là nous pouvons dire que Rafriza pense, Mashkin, Mivla Blié, que les liquides qui sont dans les fruits font partie intégrale, ils sont avalés dans le fruit. Mivla Blié, la traduction littérale, c'est avaler. C'est-à-dire qu'en fait, ils font partie intégrale du fruit. Et donc, Vekevan, Deit Moulé, Ourlé. Et donc, puisque le fruit, la nourriture est devenue impure, It Moulé, Mashkin. La nourriture, les liquides qui sont dans le fruit, eux aussi sont devenus impurs. Et donc en fait, Rafrida, lorsqu'il a posé la question à Ravacha Baravavia, il lui a posé d'après son avis. C'est-à-dire d'après Ravacha Baravia, les liquides qui étaient dans les raisins ne sont jamais devenus impurs. Et donc c'est pour ça qu'on a le droit de les utiliser. Mais d'après Rav Chisda, ils sont devenus impurs. Et donc c'est pour ça qu'il lui demande leur impureté, où est-elle partie? Parlez, alors Ravacha Baravia lui a dit à Rafrida, Vatlotisvera. Des mashkin mifkatkide. Et toi, tu ne penses pas que les liquides qui sont dans les fruits ne sont en fait que enfermés là-bas, mais ils ne font pas partie intégrante du fruit. Vatnan. Pourtant, nous avons enseigné dans une Mishnah, Tmemet shesachat zetim vanavim. Quelqu'un qui est impur car il a touché un mort qui a pressé des olives et ou des raisins. Et donc, il a fait sortir ou de l'huile ou du vin. Mechuvenet kabeta. Si c'est en quantité, ces olives ou ce raisin sont en quantité exacte de un cabeza, tehorim, l'huile ou le vin reste pur, car lorsqu'ils sortent, il y a une quantité moins de cabeza dans la nourriture, c'est-à-dire dans les olives ou dans les raisins, et donc ça ne peut rendre impur le vin ou l'huile qui sort de ces fruits. Alors, iamad bishlama mifkat pkide, je peux comprendre si tu me dis que le liquide dans les raisins, par exemple, n'étaient que enfermés. Alors, Mishumachitorim, c'est pour ça que lorsqu'ils sortent, ils sont purs, car en fait, lorsqu'ils étaient enfermés dans le raisin, ils ne sont pas encore devenus impurs. Et là, Yamas Mivlablié, mais si tu me dis que les liquides font partie intégrale du raisin, hein, et ils sont inclus dans le raisin, Amaitorim, pourquoi sont-ils purs? Lorsque le raisin est devenu impur, le liquide aussi sont devenus impurs. Azamar, il lui a répondu qu'il faut expliquer la Mishnah d'une autre façon. Haha, bema eskinan, ici de quoi parlons-nous? Be'anavim, shelo urcheru. Nous parlons de raisins qui ne sont pas devenus aptes à être impurs. C'est-à-dire, il y a une règle qui nous dit que toute nourriture, pour devenir impure par une source d'impureté, il faut qu'auparavant, elle ait été rendue apte à devenir impure. Comment elle devient apte à être impure? En étant auparavant mouillée par un des sept liquides suivants. De l'eau, du sang, du vin, de la rosée, du miel, de l'huile ou du lait. Ici, nous parlons d'un cas où ces raisins n'ont pas été mouillés auparavant. Et donc, puisqu'ils n'ont pas été mouillés, tant qu'ils n'ont pas été mouillés, ils ne deviennent pas impurs. Même si une source d'impureté touche ces raisins. Et donc, les mat mit kasher, à quel moment vont-ils devenir aptes à être impurs? Les chisachit leu, au moment où on va les presser. À ce moment-là, le vin qui se trouve à l'intérieur de ces raisins va sortir. Et donc, il va mouiller ces raisins sur leur côté extérieur. Et donc, ils deviennent aptes à devenir impurs. Or, chisachit leu, lorsqu'ils les pressent, batir leu shiura. À ce moment-là, il n'y a plus la quantité minimale de un kabetza. Car nous parlons ici qu'il y avait des raisins en quantité exacte de un kabetza. Et donc, comme nous l'avons expliqué plus haut, au moment où il les presse, il y a automatiquement du vin qui sort tout de suite, et donc il n'y a plus cette quantité de un kabetza. Et donc, puisqu'il n'y a plus cette quantité de kabetza, c'est vrai que ces raisins eux-mêmes deviennent impurs, mais ils ne peuvent faire passer l'impureté. Et donc c'est pour cela que le vin reste pur. Et là-dessus, il amène une preuve. Délotémarché, car si tu ne dis pas une chose pareille, que les liquides qui sont dans les fruits font partie intégrante du fruit. Adetania, ce que nous avons enseigné dans la Breita, Halemazedome, et ici nous rapportons une Breita que nous avons vue un peu plus haut, Daf la Medbet, Amouda Alef, nous parlons de la Terouma Hametz, et nous disons à quoi elle ressemble-t-elle, les Troumat, Toutin, Vernavim, Shenitmea. La Trouma de Toutim, de fraises, ou de Anavim, de raisin, qui est devenue impur. Shenloba, lo eter achila, velo eter asaka. Et donc, dans cette Trouma, il n'y a ni une permission d'en consommer, ni une permission de l'utiliser en tant que combustible. Là-dessus, Rav Chisda pose une question. Il y a oui une permission de consommer cette terouma. Comment cela? Car s'il veut, il presse ses raisins en quantité de moins d'un kabetza. Et donc, à ce moment-là, d'après te dire que les liquides ne font pas partie intégrante du fruit, mais ils sont juste enfermés dans le fruit. Donc s'il les presse en quantité de moins de 1 kabetza, on aura le droit de boire ce jus de raisin. Et donc pourquoi avons-nous dit dans la Breita qu'il n'y a pas de permission de le consommer? Voilà, nous pouvons trouver un cas où il est permis de le consommer, car le jus de raisin est pur. Et donc en fait, si malgré tout la Breita nous dit qu'il n'y a pas de permission de le consommer, ça veut dire qu'en fait, même si on presse ces raisins en quantité de moins d'un kabetza, le jus qui va en sortir est impur. Car pourquoi? Car le jus fait partie intégrante du fruit. Et donc, puisque les raisins sont devenus impurs, le jus aussi est devenu impur. Alors, Rava répond, non, nous pouvons toujours expliquer en fait que le jus, par exemple dans du raisin, ne fait pas partie du fruit. Mais il est juste enfermé dans le fruit. Et malgré tout, il sera interdit, et si on le presse, bien que les raisins sont impurs, si on le presse en quantité de moins d'un kabetza, ce qui en sort est pur. Malgré tout, ce sera interdit de le faire et de le consommer. Dilma atebeulide takala. De peur que l'on en vienne à faillir. On craint que lorsqu'il presse les raisins, il va en venir à les manger. Et donc c'est vrai que le vin qui va sortir de ces raisins lui est pur, mais ces raisins eux-mêmes sont impurs, et donc il va en venir à consommer de la terouma impure, chose qui est interdite. Amarle Abaye, alors Abaye lui a dit, est-ce que l'on craint une chose pareille, ou Mirachina et Takala, est-ce que l'on craint que les gens vont venir à faillir et à consommer de la terouma impure? Vatania, pourtant nous avons enseigné dans une boîte, Madlikim bepat ou beshemen shel truma, on a le droit d'utiliser du pain qui est devenu impur de terouma en tant que combustible, ou d'utiliser de l'huile de terouma qui est devenue impure en tant que veilleuse, chez Nitmet, qui sont devenus impurs. Et l'on ne craint pas que les gens vont en venir, par exemple, lorsqu'ils vont mettre ce pain en tant que combustible, ils vont en manger un petit bout. Ou lorsque cette huile est en veilleuse, on ne craint pas qu'ils vont en venir en prendre un petit peu d'huile de la veilleuse et mettre, par exemple, dans sa poêle à frire Pourquoi? S'il l'utilise pour ça, si on craint qu'il peut faillir, alors il peut se tromper. Il pensait que cela est permis. Étant donné qu'il est permis, par exemple, d'utiliser cette huile en tant que pelle, c'est permis aussi d'utiliser pour la poêle à frire. Un marlet, alors, Rava lui a répondu, non, ici, c'est des cas spéciaux. Pat Zarik la Benaitim, ici, du pain, il a jeté dans les buissons, et donc elle est devenue dégoûtante et inapte à la consommation. C'est pour cela que l'on ne craint pas qu'il en vienne à faillir et à consommer de ce pain avant qu'il le mette en tant que combustible dans son fourneau. Shemen shel teruma et l'huile de teruma, ramela beklimaus. Nous parlons qu'il a mis cette huile dans un ustensile dégoûtant. Et puisque cet ustensile est dégoûtant, nous ne craignons pas qu'il va venir à prendre de cette huile pour l'utiliser dans sa poêle à frire. Car étant donné qu'il est dans un ustensile dégoûtant, l'huile elle-même devient dégoûtante. Mais en effet, si l'on ne fait pas cette différence et on ne rend pas le pain ou l'huile inapte à la consommation auparavant, il sera interdit de les utiliser s'ils sont impurs, de peur que l'on en vienne à les consommer. Et la Gemara continue et nous dit, Goufa, justement, madlikim bepat ou beshemen shel truma shenitmet. On a le droit d'utiliser du pain de truma qui est devenu impur en tant que combustible pour son four ou son fourneau. Et on a le droit d'utiliser de l'huile de teruma qui est devenue impure comme combustible pour sa veilleuse. Abaye Amar, Abaye nous dit, Mishmet et Chizkia au nom de Chizkia. Verava Amar, et Rava nous dit, Debe Rebbe Yitzhak Bar Marta, au nom de la maison d'études de Rabbi Yitzhak Bar Marta, Amar Ravuna au nom de Ravuna. Loshano et la Bepat. Tout cet enseignement n'a été dit que à propos du pain. Aval Chite, mais si c'est du blé, l'eau, on n'a pas le droit de l'utiliser en tant que combustible. Shema yavo ben lide takala, de peur que l'on en vienne à faillir et à se tromper et à les consommer. Verabi Yochanan amar, et Rabbi Yochanan nous dit, afilu chite, même du blé, on a le droit du blé de teruma qui est devenu impur, on a le droit de l'utiliser en tant que combustible. La Gemara demande, veamai, pourquoi cela a-t-on le droit? Nechush dilma te ben lide takala, craignons qu'il n'en vienne à faillir et à consommer ce blé qu'il a utilisé en tant que combustible, chose qui est interdite puisque c'est de la teruma impure. La Gemara répond et nous dit Kedah Amar Rav Ashi. En fait, ici, il faut expliquer comme ce qu'a expliqué Rav Ashi à propos d'un autre sujet.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.